Bonjour! Aujourd'hui, nous vous présentons Caroline Timothée, une maman d'un enfant vivant avec la dyspraxie. La dyspraxie, c'est un trouble 10 et selon le gouvernement du Québec, c'est 5 à 6 % de la population qui est atteinte de cette maladie qui fait partie des troubles 10, mais qu'on ne parle pas davantage à comparer la dyslexie, la dysphagie ou d'autres troubles. Donc, j'espère qu'elle saura vous informer davantage sur ce que vit son enfant présentement et sur le processus là, pour avoir un diagnostic et beaucoup d'autres informations. Et j'aimerais remercier mes partenaires, dont la Fondation Santé Bécancour-Nicolas-Yamaska, que je parlerai à mi-podcast. J'aimerais remercier également mes partenaires qui me prêtent le studio présentement chez Via 95 FM et que je parlerai davantage sur mes réseaux sociaux. Et un merci spécial à M. Donald Martel, député de Nicolet, Bécancour qui m'a appuyé dans ce projet. Bonne écoute! Bienvenue à l'épisode de Handicaché Podcast, saison 1. Comment tu te sens d'être ici présentement?
Ouais, je me sens bien, mais stressée un petit peu.
C'est réciproque. On a un sentiment partagé en ce moment, là, mais c'est normal, je te rassure. Dans le fond, on se connaît un petit peu, mais pour les personnes en fait qui ne savent pas t'es qui, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, te présenter brièvement, j'aimerais ça te laisser toi-même, en fait, nous parler un petit peu de toi.
Mais je m'appelle Caroline. Je suis éducatrice à la petite enfance.
Je savais pas ça.
Oui. Cool. Ça fait 7 ans que je travaille en garderie.
OK.
Je viens de Trois-Rivières.
Puis,
ouais, ça ressemble à ça. Là, j'ai 2 enfants, un petit garçon de 8 ans, un de 2 ans.
Oh, mon Dieu!
Puis, ma vie se résume à ça. Là, je travaille, je m'occupe de mes enfants, on a...
C'est un bon train de vie, on va se le dire, quand on a des enfants, ça va vite.
Ouais.
Puis dans le fond, je suis curieuse de savoir, qu'est-ce qui t'a motivée à accepter mon invitation, en fait, de venir ici au Handicaché Podcast, puis de nous partager quelque chose qui te rend authentique, unique et changé aujourd'hui, en tant que personne.
Il y a 2 ans, presque 3 ans, mon garçon, il a eu un diagnostic de dyspraxie, puis... T'sais, sur le coup, ils m'ont dit que c'était considéré comme un handicap. Puis, t'sais, j'ai fait « OK, c'est un gros mot, ça. » Parce que moi, je le voyais pas du tout comme ça.
Ouais.
Puis, en parlant avec ses professeurs, les intervenants, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment connu.
Non.
T'sais, comme...
Non.
T'entends dyspraxie, puis t'entends souvent parler de la dyslexie, de ces affaires-là. Ça, tu sais, c'est quoi, mais dyspraxie, c'est plus vague.
Bien, dans le fond... Même moi, tu sais, quand la personne qui te référait à moi m'a parlé de la dyspraxie, j'ai fait comme quelques recherches parce que j'ai entendu ça peut-être une fois dans ma vie, mais c'était vraiment vague. Je me rappelais plus, tu sais, c'était quoi exactement. Est-ce que c'est dans les troubles 10? C'est
oui, ouais, exact. C'est ça. Puis, c'est ça. Puis, je me rends compte que ton podcast résume vraiment bien ce que c'est parce que quand on parle de la dyspraxie, souvent, on dit que c'est un handicap invisible.
Ouais.
Parce que quand tu vois l'enfant ou la personne qui a ce trouble-là, souvent, ça se voit pas.
Oui, je comprends.
Il y a de l'air d'un enfant normal.
Ouais.
Ben normal, ils sont tous normales, là, mais
ouais.
Typique, mettons.
Puis, tu peux-tu m'expliquer un petit peu c'est quoi...
Ben, en fait, les autres termes qui peuvent aider à comprendre, là, on dit que c'est un trouble d'acquisition de la coordination.
OK.
Ou trouble développemental de la coordination. Là.
OK.
En fait, c'est que... Les mouvements qu'il veut faire, il sait comment faire les mouvements, mais le message ne se rend pas à ses muscles, ne se rend pas à sa coordination, dans le fond. Fait que, je vais te donner un exemple simple. Il sait que son crayon, il doit le tenir comme ça.
Oui.
Ouais. Il doit le tenir comme ça, mais son cerveau ne veut pas que ses doigts tiennent son crayon comme ça.
OK, je comprends ce
que tu veux dire. Ou mettons, pédaler, il sait qu'il doit pédaler en avançant les jambes, en tenant son guidon, mais... Le message ne se rend pas, fait que c'est plus difficile.
C'est ton petit coco de quel âge qui a ce
diagnostic-là? Il y a 8 ans. Il l'a eu à son durant sa maternelle, là, fait aux alentours de 6 ans.
OK.
Mais il y avait plein de signes avant-coureurs qui pouvaient le laisser. Je savais, même moi, je ne savais pas c'était quoi. Puis quand que je dis que c'est quelque chose qui n'est pas connu, maintenant, dans mon cours d'éducation à l'enfance, là, on a une partie sur les enfants à problématiques particulières. Et qu'on parle du TDAH, on parle de plein de maladies ou de trucs comme ça, mais jamais on a parlé de la dyspraxie. Hein. Sa professeure, ça fait 17 ans qu'elle enseigne, puis elle avait jamais
compris c'est drôle, c'était quoi. Là. Parce qu'il y a une autre de mes invitées, en fait, qui est en processus d'évaluation aussi pour sa petite cocotte. Pour une dyspraxie, peut-être. Là. Fait, oui. Bien, là, j'en entends parler comme là, mais c'est...
Je pense que c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on pense, parce que au final, avec cette problématique-là, on est capable de tout faire, mais beaucoup plus long que les autres.
OK.
T'sais, ça va juste prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'acharnement, mettons, pour réussir à le faire qu'un enfant ou une personne typique.
Savais-tu qu'il y a de la misère à se déplacer, exemple?
T'sais? Non, il marche, tu vas voir, il marche comme il faut, mais des fois, il va s'enfarger dans ses propres pieds.
OK.
Mettons, dans le questionnaire là, qu'il demandait quand que on a fait la démarche, ben il comparait à un éléphant dans un magasin de porcelaine, mettons.
Ah.
Il me demandait si ça avait l'air de ça, mais c'est exactement ça.
Ah, je comprends ce que tu veux dire.
Vraiment s'enfarger dans ses propres pieds, ça peut pas être mieux expliqué que ça. Là.
OK.
Ou au début, je pensais peut-être un trouble de l'attention parce qu'on aurait dit que tu ne comprenais pas. Puis ce que je veux faire en venant parler ici, c'est surtout d'enlever la grosse croyance qu'ils sont comme malhabiles.
Le mythe, dans le fond,
que c'est malhabile, que c'est maladroit, que c'est de l'inattention, c'est pas ça. C'est vraiment que ça veut pas.
Fait que tes signes précurseurs, toi, que tu as vus chez ton enfant, c'était...
Il a marché plus tard, mettons. T'sais, un enfant devrait marcher aux alentours de 1 an. Ben lui, à 15 mois,
okay.
Il commençait à marcher. Fait que ça, moi, c'était mon premier bébé, je m'en suis jamais...
Ouais, non, c'est ça. C'est
comme, OK. Oui.
Puis t'es dans le développement aussi, des fois, tu sais, oui, il y a des barèmes, mais ben, ça se
puis dans le développement, ils disent qu'avant 18 mois, il n'y a pas de...
d'enjeu tant que ça.
C'est ça, que c'est pas un problème.
Ouais.
Fait que je n'étais pas trop posée de questions, mais mettons, ça mangeait proprement.
Okay.
Sa cuillère, là, faire le mouvement de prendre la cuillère, la mettre à sa bouche, ben, ça marchait pas. Il y en avait partout, tout le temps, où il y avait zéro intérêt pour le dessin. Okay. Dessin, peinture, tout ce qui demandait de la motricité fine, là, ça, il y avait zéro intérêt parce que ça fonctionnait pas. Il était pas capable de le faire pour... Puis il avait pas les mots pour me dire qu'il était pas capable de le faire.
C'est ça, étant plus jeune, c'est... J'imagine que ça va être plus difficile de le diagnostiquer aussi, considérant ces enjeux-là. T'sais, on se dit, est-ce que ça fait partie du développement de l'enfant, de ne pas être rendu capable encore? Ça a dû jouer.
Je pouvais comparer facilement, mettons, des dessins entre mon enfant de 4 ans et d'autres enfants auxquels je m'occupe.
T'sais. OK, je comprends.
Je le voyais là, qu'il y avait un écart. Tous les enfants ne sont pas rendus au même niveau, mais il y a quand même une petite ressemblance. Mettons, ils sont tous capables de faire un bonhomme.
Ouais,
moi,
comprends.
Ça ressemblait à un bonhomme allumette encore, faire le rond, puis les deux bras, c'était pas là.
OK.
Mais c'est surtout rendu à l'école. Parce que je savais que son crayon, il le tenait pas comme il faut, puis c'est quand même une base là, de pouvoir tenir son crayon. Donc, mes amis, en 4-5 ans, ils savaient écrire leur prénom, ou pratiquement toutes. Là. Moi, ça marchait pas. Puis tu vois, encore aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il écrit à tous les jours, puis son nom... C'est encore un défi, là.
OK. Puis, dans le fond, est-ce qu'au début, il pensait plus que c'était un trouble d'apprentissage, soit dyslexie ou d'autres?
Non, parce que la dyslexie, c'est mélanger les lettres, mettons. C'est mélanger les choses. Lui, c'était vraiment sa appréhension qui n'était pas correcte. Mais on a la chance d'avoir, à l'école où il va, ils ont une grosse équipe multidisciplinaire avec des ergots, des orthos.
Wow.
Ils ont vraiment de tout. Puis, la première rencontre, il nous offrait de pouvoir parler, de demander à ce qu'il soit suivi, évalué avec ça. Puis, je savais pas ce qu'il y avait, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui était pas correct, là. J'avais demandé à ce qu'il soit vu. Puis,
fait que c'est l'école, dans le fond, qui t'a offert de...
Oui, j'ai été vraiment chanceuse, là, parce que avec l'école, il a pu voir une ergo, il a pu voir... toutes les personnels reliés à ça.
Oui. Ergo, physio, tout ce qui est...
Puis heureusement, il y avait pendant qu'il faisait ça, il y avait une fille qui était en train de finaliser son dernier stage d'ergothérapie, puis elle avait besoin de faire une évaluation complète sur un enfant. Fait que Jackson,
c'est correct.
Il répondait, tu sais, il répondait à tout ça, fait qu'elle a voulu faire son examen sur mon enfant là pour pouvoir. Fait qu'il a pu avoir son diagnostic beaucoup plus rapide que si eux avaient fait la référence au CIUS, puis que là, on aurait repassé par tout le processus.
Oui, d'attente aussi, j'imagine.
Ben oui, parce qu'il y a plusieurs mois, voire années d'attente.
Ouais.
Puis au moins, avec un diagnostic, c'est plus facile de pouvoir avoir des plans d'intervention, de l'aide là, auprès de son enfant.
J'ai envie de te demander, toi, en tant que maman, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as reçu ce diagnostic-là?
Ah, ben ça m'a fait mal.
Ouais.
Ça m'a fait vraiment mal. En plus, j'étais enceinte de mon deuxième. Là. J'avais comme 36 semaines. Fait, tu peux t'imaginer le taux d'hormones très élevé. Là.
Ouais.
Moi, je voulais pas y croire. Là. Tu peux pas dire que mon enfant est handicapé. Là.
Ouais.
Et il l'est pas. Là. C'est pas. Fait qu'il a fallu qu'il m'explique de long en large que c'est. On dit que c'est un handicap, mais c'est parce que ça va y apporter des défis. Là, aujourd'hui, ça va. Là. Je l'accepte. Là.
Ouais.
Mais si je remets ça au début, je suis. Non, c'était possible. Là. Il est correct, là. Il est capable. Là. Il est capable. C'est juste un peu plus dur. Là.
Je comprends ce sentiment-là. Autant à l'inverse que moi, j'aime pas me faire dire « Ah, t'es une personne handicapée. T'sais, t'es un handicap. » Moi, quand que je parle, j'essaie de dire que je vis avec un handicap, que je ne suis pas cet handicap-là.
Mais c'est exactement ça. Je voulais pas que... J'avais peur qu'on y mette une étiquette.
Ouais.
Puis en même temps, j'avais aussi... Là, je comprenais pourquoi il était moins habile que les autres.
Ouais.
Mais j'avais quand même peur qu'on fasse comme « Ah, mais lui, il est comme ça, il sera jamais capable de faire ça » ou « Ah, c'est à cause de ça » ou « C'est à cause de ci », mais ouais, l'annonce a été
difficile.
Plus difficile.
Puis comment, au fil du temps, tu as évolué dans ce processus-là?
Ben je me suis reconnue en lui. Ouais, je me suis beaucoup reconnue. Puis comme on disait que c'est quelque chose qui est pas tant connu, si on remonte dans le temps, là, les personne avec un TDAH, là, c'était
ouais.
un petit anant, là. Il n'y avait pas rien qui pouvait expliquer ça, mis à part qu'ils n'écoutaient pas. Maintenant, on comprend ce qu'ils ont, fait qu'on peut mieux les aider, mieux les épauler, mais...
Puis moins les juger aussi.
Mais
là,
oui, totalement. Là,
et mettre des étiquettes encore là, mais peut-être moins positif.
Oui, exact. Fait que je me suis renseignée, là, je me suis mis à lire tout ce qui pouvait exister sur la dyspraxie, puis il n'en existe pas tant ça, des ouvrages. Là. J'en ai trouvé quelques-uns intéressants. Là. Mais c'est parce que aussi la dyspraxie, là, elle a deux côtés. Tu as le côté moteur et tu as le côté verbal.
Ah, ça, mon Dieu, je ne savais pas qu'il y avait le côté verbal avec.
Moi, mon enfant, il y a juste le côté moteur. Là. Mais ouais, ça existe verbal. Ça veut dire que, un peu du même principe que les mouvements, tu essayes de dire quelque chose, mais ça ne sort pas comme tu veux que ça dise. Tu le sais comment mettre tes syllabes dans le bon ordre, mais ça sort dans un ordre différent.
Ah, mon Dieu, OK.
Et là, je trouvais beaucoup d'ouvrages qui parlaient de la dyspraxie verbale, mais mon enfant, c'est pas ça qu'il a. Fait que là, j'essayais de trouver d'autres choses. Mais en lisant ça, j'étais comme, ouais, OK, c'est moi, ça.
OK.
Je veux dire, ça sort pas une...
Toi, tu t'es reconnue là-dedans?
Oui, oui, totalement. Là. Puis là, je me dis, ben, en même temps, ça m'a encouragée. Puis je me dis, j'ai jamais échoué une année scolaire. J'ai fait un cégep.
T'as réussi dans la vie.
C'est ça, j'ai réussi, mais dans ma main d'écriture, c'est pas la plus belle main d'écriture au monde, mais t'es capable de me lire. Non, je suis pas la personne la plus habile du monde non plus.
Puis est-ce que tu le sais, mettons, si t'aurais peut-être ce diagnostic-là? Est-ce que t'as...
Ben, honnêtement, j'ai demandé aux intervenants à savoir si c'était possible à l'âge adulte d'avoir un diagnostic de ça. Et ils m'ont dit, comme réponse, que ça coûtait très cher avoir le diagnostic, puis que ça change pas grand-chose, parce qu'en effet, ça change pas grand-chose. Ça m'apportera pas grand-chose de le savoir officiellement avec un diagnostic, mais...
C'est ça. Puis tu vois que tu étais capable quand même de débrouiller dans la vie.
Ça m'a encouragé beaucoup pour mon enfant, en me disant, j'ai été capable, il va être capable, là, ça changera pas grand-chose. Mais... Oui, je le voyais beaucoup. Mettons, je me souviens, au primaire, quand on a commencé à écrire en lettres attachées, là, c'était difficile. Là. Du vélo, j'ai appris ça sur le tard.
J'avais
comme 9 ans là, quand j'ai appris à faire du vélo. Là. C'est tard là, comparé
à d'autres
aux
enfants.
Autres qui apprennent ça à 5-6 ans.
Oui, puis en même temps, ce que j'essaie de ramener, justement, c'est que c'est correct, tu sais, que ça prenne plus de temps. Oui. Puis on est vraiment, je trouve, dans une espèce de société présentement, en tant que parent, qu'il y en a beaucoup, tu sais, puis c'est correct, qui essaie de... faut que mon enfant marche vite, faut qu'il se développe bien, puis il y a beaucoup de pression aussi, je pense, par rapport à ça, excusez. Fait que, tu sais...
Puis oui, puis l'important, c'est qu'il faut toujours se rappeler que chaque enfant est unique.
Oui.
Et
oui,
chaque
c'est
enfant
ça.
Va apprendre à son rythme.
C'est diagnostique ou pas, c'est juste que des fois, on a besoin de services, on a besoin de ressources de plus, on a besoin d'aide de plus.
Ben,
c'est sûr que ça le prend, tu sais, quand on a des besoins particuliers, mais moi, je veux relativiser puis dire que c'est correct, dans le fond, que ça le prenne plus de temps.
C'est correct, mais il faut, mettons, pour ça, là, je pense qu'il faut quand même que ce soit plus connu puis plus entendu
exact.
Parce que sans... Moi, j'ai réussi, mais j'avais pas de plan d'intervention. Là. J'étais au régulier, puis il a fallu sûrement que mes professeurs comprenaient pas pourquoi que ça me prenait autant de temps de rentrer ça dans la tête. Ou j'étais, je vais te donner un exemple là, complètement ridicule, là, mais en sciences, au secondaire, fallait qu'on dessine je m'en souviendrai tout le temps, une clé à molette. Là,
oh mon Dieu.
Je sais pas si tu as eu la chance de faire cet exercice-là,
Non.
Là, mais il fallait qu'on dessine une clé à molette de face et de côté, mettons. Puis l'autre, c'était une petite brocheuse. Il fallait qu'on la fasse de face et de côté. Ouais, mon cerveau, là, ça marchait pas. Là. J'ai beau essayer. Je m'étais mis à la tracer, essayer de faire de quoi. Ça ne marchait pas.
Pas.
Mon prof, il a jamais compris là, pourquoi j'étais pas capable. Là. Il était là, voyons, toutes les autres sont capables, pourquoi t'es pas capable? Je sais pas pourquoi je suis pas capable, mais je suis pas capable. Ça marche pas.
Ça te fait tellement culpabiliser aussi de recevoir des commentaires de même, puis de te faire comparer, puis de te dire que
ben
tu
oui,
n'es pas
tellement.
capable à comparer les autres.
Tandis que si, mettons, il y avait eu quelque chose qui s'était dit à mon sujet qu'il aurait pu le savoir, il aurait pu faire, OK, c'est pas parce qu'elle veut pas, c'est parce que...
Adapter peut-être l'activité
c'est
en
ça.
conséquence aussi, tu sais, je veux dire...
Et puis heureusement, aujourd'hui, mon enfant, lui, il est suivi depuis sa maternelle, puis ça va y suivre comme...
toute sa vie.
Toute sa vie de scolaire, là.
Ouais.
Fait qu'il va pouvoir être aidé, puis je pense que ça peut... Mettons, moi, j'étais quelqu'un de persévérante à l'école. Je voulais réussir. Mais quelqu'un qui est un petit peu moins persévérant, là, ça peut amener au décrochage scolaire.
Oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça, mais oui. Bon point.
S'il y a le plan et qu'il y a les outils adaptés pour lui, pour l'aider,
Ouais.
ça va être beaucoup plus facile.
Comme du temps supplémentaire, un ordinateur,
Mais
je sais
oui.
pas s'il est rendu
Ben,
à voir
en
ça.
ce moment, ben, il commence.
Oui, c'est ça.
Il commence à vouloir mettre l'ordinateur parce que malgré les multiples tentatives d'efforts et c'est plus difficile, mais ça, c'est surtout que ça représente pas ce qui est vraiment.
Oui, je
T'sais, il est
comprends.
pas capable de mettre sur papier
Ses idées.
ses idées puis son raisonnement. Ouais, fait, puis ça lui permet aussi, mettons, en lecture, il a pas besoin
Ouais.
d'écrire la réponse, il peut juste la verbaliser.
Je sais qu'il y a un manque peut-être de ressources dans certaines écoles, mais je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, moi, c'était l'écriture, puis encore aujourd'hui, moi, j'ai un ordinateur aussi. Puis j'avais vraiment mal aux mains ou je shakais trop parce que moi, c'est avec tremblement, dans le fond, la maladie que j'ai. Ça prenait beaucoup trop d'énergie, puis j'étais vraiment fatiguée à comparer les autres élèves à la fin de la journée. Fait que, tu sais, j'avais une éducatrice spécialisée que je pouvais. Là, c'est sûr que je chuchotais pendant les examens, mettons, là, à mon éducatrice qu'est-ce que je voulais écrire. Tu sais, puis c'est elle qui l'écrivait à ma place parce que dans le temps, il n'y avait pas. Dans le temps, j'ai pas 50 ans, là, ou plus, là.
Mais ça remonte à pas si loin, là. Je suis pas si vieille non plus. Puis...
c'est ça, il n'y avait pas d'ordinateur vraiment, là, de ce que je me rappelle dans ce temps-là. C'était primaire, secondaire, début secondaire. Mais, fait que c'est ça. T'sais, c'était comme la manière d'adapter un peu mes capacités à mes idées, justement, parce
Mais
que...
imagine si tu n'avais pas eu ça.
Ouais, mais c'est ça.
Hey.
Si j'aurais pas eu de diagnostic, de service, t'sais, des fois, ça va avec. Là, moi, on avait une idée du diagnostic, mais c'était pas trop clair non plus, mais j'ai eu les services quand même, heureusement, là. Mais si j'aurais pas eu ça... Puis s'il n'y aurait pas eu mes parents derrière moi qui auraient comme poussé à ce que j'aie un diagnostic puis des services, ben je sais pas. Tu sais, si j'aurais vraiment aimé l'école, puis si j'aurais continué aujourd'hui dans mes projets, puis à me faire confiance aussi, là.
Bien, c'est sûr, parce que peu importe c'est quoi, là,
Ouais.
on dirait, si je reviens à la dyspraxie, là, on veut jouer au ballon chasseur. Il en faut de la coordination, là, mais tu vois, tes amis, ils savent que t'es pas le meilleur, mettons, parce que tu vas te faire pogner. Mais si les gens savent pas c'est quoi, ben ils comprendront pas, puis là, tu vas être le dernier à être choisi dans ton équipe, tu vas être le dernier à faire ci, tu vas... Puis, on dit, ça l'amène que là, t'as plus de plaisir, t'as plus de fun, tu veux plus le faire. Puis c'est ça, je vais y montrer. Tu sais que c'est possible de tout faire.
Petit moment d'interruption pour que je vous parle de la Fondation Santé Bécancour Nicolet Yamaska. Saviez-vous que il y a au moins 5 excellentes raisons de soutenir la Fondation Santé BNY par un don ou en participant à ses levées de fonds? En voici une option. Une impulsion pour le développement local. Chaque année, la Fondation éjecte environ 100 000 dans le réseau de santé de Bécancour Nicolet Yamaska, contribuant ainsi à la vitalité et à l'essor économique, social de notre région. Pour contribuer, faites un don et un geste pour la santé. Vous pouvez taper sur le site web de la Fondation, donc c'est le www.fondationsantebny.ca. Merci et bonne écoute du reste du podcast. C'est justement ce que j'allais te demander comme question. Est-ce qu'il y a des défis, des enjeux, tu sais, au niveau des relations sociaux à l'école? Autant que toi, tu aurais vécu que ton enfant que tu vois en ce moment, là, tu t'en as nommé un exemple. Puis, qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour l'accompagner là-dedans? Pour pas, exemple, qu'il manque de confiance en lui dans des situations comme ça.
Mais ça, je pense que c'est ma plus grosse peur, là. Ma plus grande crainte, parce que, tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire pour ça. Ça va être comme ça, il va falloir qu'il se pratique, il va falloir qu'il essaye. Je veux surtout lui montrer qu'il faut qu'il continue à être persévérant.
Ouais.
Pour l'instant, je pense qu'il est encore chanceux. Là.
Oui.
Et je pense que ça se voit pas encore. Il est juste en deuxième année. Là.
OK.
Mais j'ai déjà entendu un ami, il y a un jeu là, qui joue dans le cours de récréation. C'est un jeu avec un ballon. Là. Puis, j'ai déjà entendu un de ses amis dire « C'est le fun de jouer avec, là, mais il perd tout le temps. » Fait que l'enfant, c'est pas méchant. Là. Ouais. C'était pas méchant, mais moi, j'étais comme « Ouch! » Je pense que ça me ramène à des propres blessures. Là.
Que toi, tu aurais vécu, toi aussi.
Plus jeune, donc. Mais ma principale préoccupation, je pense, c'est de toujours le motiver. De trouver un sport qu'il aime. Là, il est parti à vouloir jouer au soccer. Bien, on va l'inscrire à des cours de soccer. Puis peut-être que ça va bien aller. Peut-être que ça ira pas bien, mais au moins...
L'encourager à se dépasser quand même.
Participer. Ben, je pense que c'est la chose la plus importante.
Ouais.
C'est de ne pas se décourager en se disant « Moi, je suis pas capable, je le ferai pas. » Parce que s'il continue à se dire « Je suis pas capable, je le ferai pas », c'est vrai qu'il sera jamais capable.
Exact. Puis aussi de l'encourager, même s'il y a des peurs, de dire « Tu es capable, tu vas être capable à ta manière, tu vas trouver ta manière de réussir, ton rythme. »
Puis je pense que ça va dépendre aussi de son intérêt.
Ouais, ben oui, absolument.
De beaucoup, beaucoup, parce que il me disait que la natation, ce serait difficile pour lui parce que c'est beaucoup de coordination. Il faut que tu tiennes ton souffle pour rester hors de l'eau. Il faut que tu battes les jambes en même temps que les bras. Lui, en été, il a dit, je veux plus de flotteur. Là. Je veux aller me baigner avec mes amis sans flotteur. J'ai comme, t'as peur, là? Il va falloir que t'apprennes à nager comme du monde. Mais en deux semaines, il nageait là, parce qu'il voulait. Le vélo, ça ne l'intéresse pas parce qu'il est capable de courir avec ses amis, mettons.
Ah, OK.
Il se trouve des facilités.
Oui, il se trouve des points forts, qu'il est capable d'être comme les autres. Là, puis je pense que c'est ça. Quand on vit avec une différence, on essaie d'être comme les autres. C'est dur, ça prend des années à accepter un peu comment qu'on est. Mais tu parles d'éducation physique, puis ça me revient. Là. Depuis tantôt, je suis comme... T'sais, mettons, moi, je sais que je n'étais pas capable, exemple, comme le ballon chasseur, de courir autant que les autres. Puis je finissais toujours par dire à mon éducatrice, « Oh non, je suis trop fatiguée. » Mais dans le fond, c'est parce que je ne voulais pas que les autres remarquent ma différence.
Exact.
Puis mes parents, je les aime d'amour, puis ils voulaient que mon bien. Mais je me rappelle, qu'on me disait souvent, puis n'importe qui, en fait, là, quand je voulais faire des choses un petit peu extrêmes, là, c'était comme, « Mon Dieu, tu pourras jamais faire ça ou t'es pas assez fort pour faire ça. » Fait que, tu sais, je me suis beaucoup limitée. Puis même, tu sais, au fil des années, inconsciemment. Mais, tu sais, je me suis déjà fait dire aussi que je pourrais jamais avoir d'enfant, que je pourrais jamais accoucher, que je pourrais mourir si j'accoucherais. Puis aujourd'hui, j'ai un enfant.
Mm.
Aujourd'hui, je poursuis mes rêves. Puis ça prend du temps. Ça prend de la sensibilisation aussi, je pense, au niveau des enfants en général. T'sais, parce que c'est là un petit peu que ça commence nos relations solides, là, je mm-hmm. dirais un petit
Mais
peu.
Notre perspective de la vie,
ouais,
part
ouais.
de là.
Oui, fait que plus de sensibilisation dans autant dans les écoles que dans les familles à la maison. Je pense que c'est important de sensibiliser les jeunes qu'il y en a d'autres enfants qui sont différents, comment les respecter. Puis ça, c'est d'autres étapes. Puis ça va être un peu aussi sur mes capsules d'anti-cachés. J'aimerais vraiment ça, de trouver plus de trucs à offrir aux parents pour sensibiliser les jeunes, parce que, comme ton garçon, je veux pas qu'il vive du rejet autant que le mien. Puis je veux qu'il fonce, puis je veux qu'il aille de l'avant, puis qu'il pense pas juste à être comme les autres, mais qu'il pense à être lui, tu sais.
Oui, ben oui. On pourrait pas mieux dire
non,
ça,
c'est ça.
comme ça.
C'est ça.
Parce que c'est sa différence fait de lui qui il est, là.
Oui.
Puis il est capable. Il faut juste qu'il veuille, puis il faut pas qu'il se mette de limites.
C'est
En
ça.
disant, parce que des fois, je le sais qu'à l'école, il va dire, « Ah, madame, j'ai la dyspraxie, ça fait mal à mes mains. » Je suis comme, « Mais non, mais des fois, il s'en sert. »
Oui, mais
Il
c'est ça.
s'en sert comme pour se mettre des... Il se met des... Il s'auto-met des barrières, mettons.
Oui.
Parce qu'il a tellement entendu dire, avec ça, ça donne telle chose, ça fait telle affaire, que là, il fait comme, « Je suis pas capable, c'est à cause de ça. » Puis c'est tout, là.
Je comprends ce que tu veux dire.
Mais ça, je veux pas qu'il fasse ça.
Ouais.
Faut qu'il passe. C'est bien qu'il sache ce qu'il y a, puis qu'il puisse en parler à ses amis, puis qu'il peut le voir, puis qu'il comprend. Puis je pense qu'en vieillissant, il va pouvoir mieux l'expliquer. Moi, j'avais pas cette chance-là. Là. Je pouvais pas dire à mes amis, ben, je suis comme ça parce que je suis comme ça.
T'avais comme une étiquette d'être peut-être
Ben, la
plus
malhabile.
la malhabile, la plus lente,
C'est ça.
t'sais.
Je pouvais pas expliquer pourquoi j'étais comme ça. J'étais juste comme ça à leurs yeux. Donc.
Je comprends.
Tandis que lui, il peut l'expliquer. Fait que je pense que ça peut l'amener à aller plus loin.
Fait que tu dirais que c'est quoi le plus grand mythe que tu souhaites démystifier de la dyspraxie aujourd'hui en venant ici?
Ah, ben que c'est des enfants malhabiles. C'est la plus grande chose que je veux enlever, là. Ou que c'est parce qu'il regarde pas ce qu'il fait. Ou c'est parce qu'il veut pas. Ou c'est parce que ça y tente pas. Ou que c'est de la lâcheté. Parce qu'on peut même les considérer comme des enfants lâches, là.
C'est ça.
Ou comme des personnes qui font de la lâcheté, là. Et puis c'est totalement, mais tellement pas ça, là. C'est vraiment parce que le message se rend pas. Puis c'est ça que je veux que les gens comprennent, que c'est pas parce qu'il veut pas, c'est parce qu'il peut pas.
Est-ce qu'il y a des moments que tu es obligé de limiter un petit peu ses déplacements? Exemple, si tu vas à l'épicerie, est-ce que tu l'emmènes dans un panier ou...
Non, 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 non.
Non, OK.
Il est fonctionnel, là.
OK, OK.
Mais ça, je parle pour moi, mais je sais qu'il y en a d'autres que c'est pas le cas.
Oui.
C'est qu'ils ont un niveau de sévérité plus élevé, maintenant.
Oui.
Mais il est capable de tout faire.
Ben, ça pourrait-tu en venir à ça, un diagnostic de dyspraxie, tu sais?
Ben là, je suis pas professionnelle, là, je pourrais
ouais.
pas en venir, mais je connais un autre enfant qui vit avec ça, autant... elle, c'est autant moteur que verbal, là.
OK.
Et sont allés en voyage, puis il a fallu qu'elle suive en chaise roulante parce que ça lui faisait trop mal, mettons.
OK, je comprends. Mais
elle, c'est plus élevé.
Fait qu'il y a quand même plusieurs niveaux de sévérité aussi,
oui,
là-dedans.
Plusieurs degrés, oui.
OK.
Mais dans mon enfant, sans être dans un grade sévère, je pense, il répond 100% au diagnostic clinique.
Je comprends.
Il y a toutes les petites phases qu'il pourrait avoir, c'est juste que ça paraît moins qu'un autre. Okay. Il a fini par être capable d'apprendre à marcher comme il faut, tandis qu'il y en a d'autres que ça se pourrait que ça soit toujours saccadé.
Je comprends.
Ou, mettons, écrire, ça ne marchera jamais. Ou ça va être très, très basique. Là.
OK. Puis je comprends ce que tu veux dire en disant que tu viens ici pour justement déconstruire les préjugés rapides que les gens peuvent dire comme paresseux, paresseuse. Encore quand tu parles, ça m'a rappelé un autre flash. Je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère m'embarquait dans son panier d'épicerie, tu sais, pour que je suive. J'aimais ça, honnêtement, suivre partout, mm-hmm. mais ma manière, c'était de m'asseoir partout. Ou, tu sais, j'aimais pas ça, moi, les chaises roulantes. Puis en plus, la mienne, c'était une poussette, genre, tu sais.
OK, ouais.
Tout pour mettre l'attention sur moi, là. Tu sais, moi, je voulais juste me fondre dans un mur. Mais je me rappelle, c'est arrivé plusieurs fois, là. Puis des personnes assez âgées, des adultes, mm-hmm. du monde qui venait nous voir, puis me demandait... pourquoi t'es dans le panier? T'es donc bien paresseuse. Mais tu sais, c'est toutes des choses. Peut-être qu'on entend moins aujourd'hui, il y a peut-être plus de conscientisation à des commentaires comme ça, mais on en entend quand même, je trouve.
Ben, moi, je trouve que oui, là. Ouais. Mon enfant, avant qu'il a fallu que j'explique à toute ma famille c'était quoi, parce qu'il pensait qu'il voulait pas ou que ça ne lui tentait pas. Ou attends, c'était tout le temps, ah, oh, quand est-ce que tu vas écrire ton nom, là, tu devrais être capable de faire ça, là, t'es rendu grand, là, tu devrais être capable de faire ça. Et lui aussi, il sait qu'il devrait être capable de faire ça. Là. Il n'a pas besoin de se faire dire.
Se faire rappeler ses limitations, ses besoins, peut-être plus particuliers. Là.
Puis, je pense qu'ils se développent tout à leur manière, puis tellement. Avec le temps. Là. Mais si on continue de leur dire que c'est parce qu'ils sont pas bons, ben ils vont finir par grandir en se disant qu'ils sont pas bons.
C'est ça. Exact. Et
je pense que c'est la pire affaire. Tu peux pas grandir en disant que t'es pas bon. Là.
Mais il y a la chance d'avoir une maman comme toi qui peut dire qu'il est bon. Mais c'est juste, le but, c'est de conscientiser le plus de monde à ces sujets-là pour que des commentaires comme ça l'arrête. Puis, je pense que le combat d'une maman qui a un enfant qui vit avec un diagnostic, c'est toujours d'essayer de doser un petit peu, tu sais, de faire valoir les limitations de nos enfants, mais en gardant ces forces-là, tu sais. Mm-hmm. Parce qu'il y en a des fois qui vont peut-être moins respecter les limites de l'enfant, puis qui va pousser trop. Fait que, tu sais, c'est tout le temps de jauger, puis c'est dur aussi quand on... T'as une maladie.
Trouver un équilibre.
Ouais, je pense que pour nous-mêmes qui sommes des adultes, je sais pas si tu le vis encore aujourd'hui, tes difficultés, c'est doser cette énergie-là de, il y a une journée que je vais être capable de me doser, je vais être capable de tout donner ce que je peux, puis le lendemain, tu vas être peut-être plus à terre, plus fatigué. Des fois, c'est dur de l'expliquer à d'autres personnes qui ne vivent pas dans leur corps, tu sais.
Ben, heureusement, là, mettons, avec ça, je pense que, comme je disais tantôt, on finit par réussir à tout faire, là.
Ouais.
Fait qu'aujourd'hui, il m'arrive encore des situations là, que je suis comme, OK, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je fais ça? Mais ça me fait beaucoup moins mal. Fait que je vis beaucoup moins avec ça que mon enfant qui commence à apprendre.
T'as-tu des exemples, mettons?
Ben, je veux dire, la notion de l'espace, là, oh, elle est pas...
comme ça.
C'est ça, c'est pas super acquis, là. je peux me cogner sur une porte que j'ai vue qui était là. Je l'ai vu, je sais qu'elle est là, mais tant, je vais me cogner. Je peux échapper un verre que j'ai dans mes mains, puis l'éclater, faire comme, mais voyons, je l'avais dans mes mains. Comment je peux avoir fait ça?
Ouais.
C'est ça, ou mettons, essayer de faire des tresses, là.
Ouais.
Demande-moi pas ça, là.
T'es pas capable.
Une tresse basique, là, ça va, là. Mais s'il faut que je me mette à...
Faire quelque chose de plus beau,
ça marchera pas. Là.
Okay.
Ou, des fois, je me rends compte que même quand j'essaye de parler, des fois, ça marche pas. Ça me fâche. Là.
Ouais.
Voyons, je sais ce que je veux dire, mais ça sort pas. Okay. Fait que quand je parle à des personnes plus importantes ou dans le cadre de mon travail ou que j'essaye de parler à un parent, là, puis que ça sort tout croche.
C'est stressant.
Mais là, c'est stressant. Puis là, plus c'est stressant, plus ça sort tout croche, mettons.
Puis quand tu dis que t'es, mettons, est-ce que ça te fait des douleurs dans tes membres?
Non.
Non?
C'est okay. Vraiment juste comme j'oublie de coordonner
okay.
ma main avec le contour, mettons.
OK. Puis ton petit garçon non plus, il t'a pas dit, mettons, que ça faisait des douleurs dans son corps,
non.
dans ses jambes?
Ça a pas l'air à y faire mal.
C'est sûr que s'il tombe en vélo, là, oui, là, oui, évidemment, mais, là, mais...
Ouais, c'est ça. Non, je pense pas que ça y fasse mal. Ben, moi, ça me fait pas mal. Lui, ça a pas l'air de faire mal non plus. C'est vraiment au niveau de la coordination. La chose qu'il faut retenir. C'est vraiment ça. C'est comme si on savait comment faire les choses, mais que ça marchait pas. L'hôpital Sainte-Justine a sorti un ouvrage sur ça.
Hein?
Ça s'appelle « Mon cerveau ne m'écoute pas ».
Oh, j'avais jamais entendu parler de
ouais.
ça.
Cool. C'est un livre fait par Sainte-Justine qui explique ça. Puis, je pense que c'est une des plus belles phrases qu'on peut dire. Mon cerveau ne m'écoute pas.
Oh, wow! J'aime ça.
Oui, bien, c'est clairement ça. T'sais, ça peut pas être mieux décrit que ça. On le sait, qu'est-ce qu'on doit faire. Ça marche juste pas.
C'est vrai. Ouais. Je pense que c'est une belle phrase que même ton enfant pourrait utiliser et expliquer à d'autres qui demandent qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il est différent ou pourquoi il est moins capable que les autres. C'est clair pour moi, mon cerveau ne m'écoute pas.
Ouais.
T'sais. Puis, si j'ai une dernière question à te demander, dans le fond, si tu aurais un conseil à donner, soit à un parent qui vient d'apprendre que son enfant vit avec un diagnostic de dyspraxie ou qui vit lui-même avec un diagnostic de dyspraxie, ça serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais à ces personnes-là?
Je pense que ce serait de faire confiance à son enfant ou puis de se faire confiance à soi-même. Je pense que c'est la meilleure chose, aller se documenter pour trouver des réponses. Puis encore une fois, là, vraiment se faire confiance. On est capable, ils sont capables, ils ont juste besoin d'un petit coup de main.
Ah, c'est beau ce que tu dis. Ouais. Ben, je suis totalement d'accord avec ça. Puis c'est vraiment beau de voir ta résilience que tu amènes, puis que tu apportes, puis que tu continues de montrer aux gens, tu sais, puis que tu apportes ça à tout le monde aujourd'hui. Moi, je trouve ça vraiment touchant. Puis ce que tu fais pour ton petit garçon, lui, il va te regarder, il va t'écouter, puis il va être fier de sa maman. Puis merci vraiment d'être là.
Ben merci à toi de faire ça.
Ben là...
Je trouve ça beau comme projet de vouloir faire connaître les différences.
Ah oui, puis j'ai une autre question qui m'est venue en tête oui. En même temps. À travers tout ce processus-là, avec le diagnostic de ton garçon, toi aussi quand tu étais jeune, voir un petit peu aussi les limitations de ton enfant, ça a été quoi tes sources de réconfort dans ce moment-là?
Pour moi, personnellement, je sais pas. Je pourrais pas te dire, mais pour mon enfant, ça a été de me dire que moi, je suis passée par là, puis que j'ai réussi. Donc, lui aussi, il va être capable.
C'était vraiment ça ta principale source là, de...
Ben, c'est ce qui m'a réconfortée, c'est de me dire j'ai réussi dans la vie. J'ai réussi. Hein. Je me débrouille bien. Là.
Ouais.
Je pense qu'il n'y a rien que je peux pas vraiment faire. Je pense que lui aussi, ça peut être comme ça. Puis je me suis rappelé les moments où j'ai eu beaucoup de persévérance, puis je le vois aller.
T'as confiance en...
J'ai confiance en...
En la vie tout court aussi, tu sais.
J'ai confiance en lui, oui.
Oh, ben merci. Écoute, on est rendu déjà au moment d'impact. Donc, c'est le moment, en fait, que je te présente une technique qui peut être utilisée avec des jeunes, surtout celle-là, là. Puis c'est inspiré par Dani Beaulieu. C'est une psycho-éducatrice qui a aussi Académie Impact. Je ne sais pas si tu connais. Mais je vais le faire avec toi. C'est correct. Je vais le faire avec toi. Puis tu me diras ce que tu penses de cette technique-là. Puis peut-être que s'il arrive une situation avec un jeune, que tu pourras utiliser cette technique-là aussi pour sensibiliser sur un certain sujet. Tu vas avoir besoin, en fait, d'un petit tube. Et d'un Kleenex. Je te conseille le Kleenex pour après aussi. Fait que je vais t'en laisser un ici. Puis, dans le fond, je vais te demander en premier, tu peux l'ouvrir. Tu peux t'approcher aussi. Là. Je sais que le micro, c'est plus difficile. Là. Mais dans le fond, je te demande de sortir tout ce que tu peux. Sur, ouais, du tube. En un coup, mettons.
En un coup?
Ouais, en un coup. Un gros coup, là. OK, parfait. Super. Maintenant, je te demande d'essayer de remettre une partie de ce liquide-là dedans. Ça marche pas?
Voilà.
Ben, c'est ça. Je vais te laisser t'essuyer les doigts, là. Je vais t'expliquer, dans le fond, ce que la psycho-éducatrice dirait à un enfant après y avoir fait faire cette expérience-là. Plus le trou est petit, plus c'est difficile de tout remettre à sa place. Comme quand les gens disent des paroles blessantes, ça reste là. C'est difficile de les reprendre après. Les conséquences des mots qu'on utilise sont souvent collantes et désagréables. Gardons le bouchon bien fermé avant de l'ouvrir, car cela laissera des taches chez l'autre personne. Être authentique et honnête ne veut pas dire être méchant et impulsif envers les autres.
Ben, c'est donc bien beau, ça.
Oui. Quand j'ai vu cette technique-là, ça m'a beaucoup parlé. Puis en plus, on parlait un petit peu de l'éducation physique puis des trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe à l'école dans les relations avec les autres enfants? T'sais, des fois, les enfants sont purs, on dit qu'ils sont honnêtes. C'est parfait comme ça. Mais des fois, d'enseigner, de se filtrer, ça peut être plus difficile pour certains. Fait que j'ai trouvé que cette technique-là pouvait aider les enfants à peut-être prendre plus conscience de leurs mots. Puis il y a même des adultes aussi là, qui ne prennent pas nécessairement conscience de leur...
De la parole.
Oui, de la marque que ça laisse aussi, là, tu sais. Fait que c'est ça. Je te pose une dernière question, déjà. Si tu devais associer un seul mot au terme « différence », lequel choisirais-tu et pourquoi?
Je dirais beauté.
Beauté?
Ouais, parce qu'il y a du beau dans tout.
Oh, wow.
Dans toutes les différences, on peut ressortir quelque chose de beau.
J'adore ça. Écoute, pour terminer la discussion ensemble, je vais en fait te laisser un petit ruban. Je vais te laisser le choisir pendant qu'on va conclure. Tu vas pouvoir écrire ton mot dessus. Tu choisis la couleur que tu veux, la couleur qui te représente. Puis j'aimerais ça que tu écrives ton petit nom en arrière du ruban. Puis comme ça, ça va me faire un petit souvenir là, que de ton passage ici à Handicaché. Fait que je te remercie, en fait, d'avoir été là. Je remercie les auditeurs, puis on se revoit pour un prochain épisode. Merci à toi.
Et si j'apprenais à t'aimer, vaut mieux faire de toi mon allié. Peut-être qu'il n'y a pas de distance entre les gens et ma différence.